En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Un an après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, les questions économiques liées à cette énergie font toujours débat un peu partout en Europe et surtout en France dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012. À cette occasion, l'Académie des sciences morales et politiques organisait en mars de cette année un colloque sur l'avenir du nucléaire dans la politique énergétique française. Canal Académie retransmet ses interventions en trois parties. Retrouvez ici, dans ce troisième et dernier volet, les observations de Michel Pébrot et de Jean Béchler, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Michel Pébrot s'intéresse aux points historico-économiques autour de la filière électronucléaire en France et Jean Béchler répond en tant que philosophe à la question suivante: a-t-on le droit de faire courir des risques aux générations à venir? On retrouve sans plus tarder Michel Pébrot.
Premièrement, l'indépendance énergétique a été une question très centrale dans le démarrage du programme électronucléaire. En 1973-75, les deux dates importantes pour ce démarrage, la France a été confrontée à une question importante qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, le premier choc pétrolier. Et elle a été confrontée un peu plus tard au deuxième choc pétrolier en 1980. Et ces deux chocs pétroliers l'ont convaincu de la nécessité de faire quelque chose pour avoir une certaine forme d'indépendance énergétique, non pas une totale indépendance énergétique, on en est très loin, mais en tout cas d'avoir une certaine capacité nationale de fournir des besoins. C'est l'origine du programme électronucléaire. Je dirais que dans le même temps, la France a décidé de lancer un vaste programme d'économie d'énergie. À la fin de 1973 et au début de 1974, ces deux programmes ont été lancés en même temps. Je veux dire que l'un et l'autre ont été relativement efficaces. C'est-à-dire que d'une part, on a construit le programme électronucléaire, le deuxième choc ayant été le premier, puisque une partie de l'opinion publique française n'était pas favorable à la poursuite du programme électronucléaire à la fin des années 70 et au début des années 80. Et au vu des résultats du deuxième choc pétrolier, elle a décidé de continuer. Et donc le programme qui avait été défini en 1975 a été mis en œuvre intégralement dans les délais qui avaient été prévus. Par parenthèse d'ailleurs, je dirais ici que dans la mesure où l'on a construit tout ce programme dans une période de temps déterminée, l'idée que ça compliquerait les choses de le renouveler dans la même période de temps au terme de la période de vie des centrales me paraît singulière. Je ne crois pas qu'on ait fléchi dans notre capacité de construire et donc je pense que ce problème n'existe pas. Je crois que les deux idées sont très importantes et liées. Il faut à la fois économiser de l'énergie, c'est une priorité absolue, toute l'énergie. À vrai dire, je n'avais jamais perçu qu'il y ait une différence entre l'une et les autres comme observateur, mais je ne suis qu'un observateur. Et à ma connaissance, en tout cas de contact avec les industriels du secteur, la décision européenne relative aux ampoules électriques n'était pas indifférente à quelques-uns des industriels français. La France a soutenu cette position, elle ne l'a pas attaquée. Deuxième idée, la raison pour laquelle il est important de développer le programme nucléaire d'un point de vue économique, c'est la réduction de nos importations. Alors, c'est une idée qui peut paraître un peu mercantiliste, mais je voudrais juste donner l'indication suivante. À la suite du premier choc pétrolier, la France avait, à la veille de ce choc pétrolier, une balance des paiements courants en équilibre, 1973. En 1974, son déficit était de 2,3% de son PIB. De même, en 1978, la France avait une balance des paiements courants en équilibre. En 1980-81, le déficit était de 1,4% du PIB. En 1982, 3% du PIB. Certains se rappellent peut-être que, à cette période, le déficit extérieur de la France a été jugé à ce point considérable que le gouvernement de l'époque a décidé de changer de politique économique. On ne joue pas avec les comptes de l'extérieur. Il se trouve que nous sommes actuellement dans une situation singulière dans laquelle notre déficit de nos paiements courants est de 2,3% du PIB. Alors, nous sommes dans la situation d'après premier choc pétrolier du point de vue de nos paiements courants. La question est de savoir quelles sont, à partir de là, nos marges de manœuvre. À mon avis, elles sont faibles pour détériorer nos comptes extérieurs. Et la différence avec l'Allemagne est évidemment relativement importante. l'Allemagne peut se permettre d'abandonner des ressources nationales d'énergie. Sa situation de ses paiements courants est d'un excédent de 6% de son produit intérieur brut. 6% d'excédent, moins 2,3% un déficit, ça explique une attitude très différente en matière d'approvisionnement en énergie. Troisième élément, toujours économique, la question des prix. On a vu que l'un des débats les plus importants qui anime aujourd'hui les élections, c'est la compétitivité de notre pays. Alors, il se trouve que nous avons dans ce domaine un avantage qui n'est pas négligeable, qui est celui du prix de l'électricité. Ce prix est faible, comme on l'a vu tout à l'heure en ce qui concerne les ménages. Un participant l'a dit. Il est faible aussi en ce qui concerne les entreprises. De très nombreuses entreprises bénéficient de ce coût d'énergie très faible. Cela fait partie de notre compétitivité relative. Alors, dans la mesure où on estime que cette compétitivité est insuffisante, affecter cette compétitivité peut poser problème. Le deuxième avantage de ce coût d'énergie électronucléaire, c'est sa stabilité. Nous sommes un des pays qui a le prix de l'électricité le plus stable, et c'est un avantage pour nos industriels. Ma quatrième observation sera relative, là encore, à notre compétitivité, mais cette fois-ci de façon structurelle. Je suis frappé en écoutant les candidats à l'élection présidentielle de voir un accord à peu près entre eux sur l'idée qu'il faut réindustrialiser notre pays et en particulier développer des filières d'excellence. Alors, il se trouve que nous avons quelques filières d'excellence, rares en France, mais il en existe en tout cas une, qui est celle de l'électronucléaire. Nous avons à la fois une très grande capacité minière, c'est la vieille tradition du corps des mines, chère à plusieurs d'entre nous. Nous avons une capacité ensuite d'enrichissement de l'uranium. Nous avons une capacité de fabrication des centrales. Et nous avons une capacité de traitement des déchets. J'ai compris d'ailleurs que c'est une capacité qu'il fallait améliorer et je ne doute pas que c'est un domaine dans lequel nos clients seront très désireux de voir ces améliorations. Bref, nous avons dans ce domaine une filière d'excellence. Alors on dit on pourrait fabriquer d'autres filières d'excellence et ça ne fait pas l'ombre d'un doute et à condition de se couper la jambe d'une filière existante, dit-on, on pourrait développer de nouvelles filières dans le domaine des énergies alternatives. Je suggère que comme en matière d'économie d'énergie, on fasse l'un et l'autre. Et ma foi que si l'on a un talent particulier en ce qui concerne, par exemple, le solaire, il ne faut pas manquer de le développer. J'ai cru comprendre que pour développer la consommation d'énergie électrique solaire, on avait été conduit à des importations massives. Ce n'est pas l'idée d'une filière d'excellence, et donc il existe une filière, il est sage de la développer. Les Allemands ont un excédent de 6% de leur produit intérieur brut en matière de, je le disais tout à l'heure, en matière d'échanges extérieurs, pour les paiements courants. Il ne leur est pas venu à l'idée de détruire pour autant leur filière automobile, qui, comme on le sait aujourd'hui, est à la fois consommatrice d'énergie polluante et de ce fait, polluante par elle-même. Il est singulier que nous, avec notre déficit, nous ayons l'idée de détruire l'un de nos avantages comparatifs. Je ne suis pas surpris que certains des pays voisins pensent qu'on pourrait le détruire. C'est une idée ingénieuse, mais qui ne correspond pas à nos intérêts. J'ajouterai d'ailleurs que la vraie question qui me semble pouvoir être posée aujourd'hui est celle de savoir quels investissements nous sommes susceptibles de faire pour développer cette filière. Alors, je rappelle qu'il est cohérent avec les objectifs européens de développer une filière électronucléaire. Pourquoi ? Tout le monde l'a oublié, semble-t-il, aujourd'hui, puisque personne n'y a fait référence au cours de cette réunion, mais l'une des trois communautés qui sont à l'origine de l'Union européenne s'appelait l'Euratom. Et elle signifiait bien que l'Europe pensait qu'elle avait une vocation nucléaire. Naturellement pas dans le domaine militaire, mais bien dans le domaine de la paix, puisque l'Union européenne a été construite, on le sait, sur le thème de la paix. Deuxièmement, je crois que nous avons une capacité sur le plan de la recherche. Il est très intéressant de constater qu'en dépit, en effet, des incertitudes qui pourraient planer sur l'opinion des Français en ce qui concerne l'utilité de l'atome pacifique, C'est à Cadarache que les différents pays occidentaux, et pas seulement occidentaux d'ailleurs, émergents et occidentaux, qui voulaient développer des recherches autour d'ITER, ont décidé d'installer ITER. Donc c'est un domaine dans lequel notre excellence en matière nucléaire nous permet de développer ITER. Et puis d'une façon plus générale, je dirais que la filière électronucléaire est une filière dans laquelle peut-être nous pourrions imaginer d'atteindre les objectifs qui avaient été assignés à la filière en 1975, lorsqu'on l'a engagée, c'est-à-dire non plus seulement une filière capable de produire la quantité d'électricité qu'elle produit aujourd'hui, ce qui semble être l'objectif des différents modèles, des différentes hypothèses sur lesquelles on a travaillé, mais au contraire d'en produire beaucoup plus pour précisément, par l'intermédiaire des exportations d'électricité vers notre voisin allemand qui nous vend ses voitures, de rééquilibrer un peu le commerce franco-allemand. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre Michel Pébreau. On retrouve sans plus tarder son confrère Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques.
Alors, la question qui m'a été soumise est la suivante. A-t-on le droit de faire courir des risques aux générations à venir ? Pour espérer une réponse plausible, il faut commencer par définir les termes. On, ce sont les humains actuellement vivants qui ont été à venir pour des générations antérieures depuis 100 à 200 000 ans. Avoir le droit doit être traduit par une formule plus juste, être libre d'exercer sa liberté. Faire courir des risques, c'est infliger des situations que l'on préférerait ne pas avoir à affronter aujourd'hui. Les générations à venir, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Elle doit être distribuée en deux temporalités distinctes. D'abord, l'avenir concevable par extrapolation du présent à la lumière du passé. Et ensuite, l'avenir inconcevable, faute d'informations sur lui dans le présent. Et enfin, il y a un point d'interrogation. C'est une question dont on postule qu'il est possible d'y répondre par oui ou par non, sauf à devoir constater qu'elle est insoluble. Mais si la question est insoluble, il faut répondre non. Pourquoi ? Eh bien parce que non, c'est agir de manière responsable envers l'avenir, alors que oui, c'est agir de manière irresponsable et donc confondre la liberté et la licence. J'en arrive à cette conclusion que l'argumentation doit s'attacher à la validité et à la légitimité du « oui » en la tirant des concepts de liberté et de responsabilité appliqués à l'espèce humaine en tant que telle et à ses représentants actuels. Pour ce faire, et je crois que ça conduit à une conclusion, je le répète, plausible dans ce domaine, la vérité vraie et problématique, en deux points. D'abord, qu'est-ce que la liberté humaine ? Et d'autre part, en quoi consiste l'exercice responsable de cette liberté ? Alors, sur le premier point, du point de vue du règne vivant, l'espèce humaine se distingue par des degrés de liberté exceptionnellement élevés dans l'effectuation de son humanité. Autrement dit, c'est une espèce que je qualifie de non programmée génétiquement ou, d'une manière plus explicite, la nature humaine est un ensemble structuré de virtualité dont les actualisations culturelles. Alors j'appelle une espèce ainsi définie libre, mais en ce sens très précis. Alors une espèce ainsi configurée se voit adresser des problèmes à résoudre, par exemple, comment vivre ensemble sans s'entretuer ? Comment ajuster des ressources rares à des besoins ouverts ? Comment assurer l'efficacité des activités ? Comment réussir la coopération d'une pluralité d'acteurs libres ? Etc. Les solutions, ce sont des fins à poursuivre, ce qui signifie que la liberté humaine implique la finalité. Pour ne pas trop échouer, la nature a dû équiper l'espèce des moyens de résoudre ces problèmes, sinon elle n'aurait pas été sélectionnée ou elle aurait disparu depuis longtemps. Ces moyens, ce sont la capacité à résoudre ces problèmes à l'aide de dotations naturelles en termes d'agir, de connaître et de faire. J'appelle rationalité ces dotations. Par conséquent, la finalité implique la rationalité. Or, une espèce libre, finalisée et rationnelle est forcément faillible, sinon elle ne serait pas libre. En effet, la liberté implique la capacité des contraires, et les risques et les probabilités favorisant les contraires négatifs sont tels que notre espèce est non seulement faillible, mais encore disgraciée, et pourtant, elle a réussi à survivre jusqu'ici. Si je rassemble ces quatre caractères de l'humain, je peux préciser le sens de la liberté humaine comme, premièrement, la capacité actuelle de choisir entre au moins deux possibles, deuxièmement, la capacité actuelle de choisir par une délibération autonome, et enfin, troisièmement, l'application de la délibération autonome à la rectitude définie par les fins de l'homme. Autrement dit, la liberté est un choix autonome droit. Mais la liberté ainsi définie est toujours placée sous contrainte. Les dotations naturelles, les effectuations culturelles héritées du passé, les circonstances, les incertitudes. Alors, l'exercice de la liberté doit évidemment tenir compte de ces contraintes qui peuvent comprimer, réduire, limiter l'exercice jusqu'aux extrêmes, mais sans jamais abolir la liberté. En effet, un choix autonome droit est toujours possible, à la limite entre vivre ou mourir. Cette affirmation, ou cette définition de la liberté, plus exactement, vaut aussi bien pour l'espèce que pour ses représentants. Alors, dans ce cadre, comment concevoir un exercice responsable de la liberté? Eh bien, le concept de liberté ainsi défini implique analytiquement deux extensions conceptuelles. D'abord, le concept de devoir, c'est-à-dire faire de son mieux dans le sens de la rectitude et donc dans le sens des fins de l'homme. Et d'autre part, le concept de responsabilité, chacun étant libre et responsable de la manière dont il accomplit ou dont il remplit son devoir. Autrement dit, la liberté implique le devoir de responsabilité. Or, la responsabilité a deux versants. Un versant subjectif, c'est le sens et le respect de son devoir humain, et un sens objectif, à savoir qu'elle s'exerce à l'égard de tiers. Qui sont ces tiers? Ils sont distribués en trois ensembles. Premier ensemble, les dieux, pour parler rapidement. Nous avons un devoir de piété envers les dieux. Deuxièmement, la nature. Nous avons un devoir de respect envers la nature. Et troisièmement, les autres humains, envers lesquels nous avons des devoirs. Or, les autres humains se distribuent à leur tour en trois populations distinctes. Vous avez d'abord les morts, et donc les devoirs envers eux, par exemple la mémoire, un dossier gigantesque des histoires humaines et l'ensemble de la manière dont les humains ont traité ou traitent leurs morts. Vous avez ensuite les vivants, envers eux le devoir est celui de justice, et j'adopterai la définition d'Aristote, c'est la définition de règles du jeu et le droit de donner à chacun le sien. Et enfin, il y a ceux qui sont à naître, les essomenoi, ceux qui seront. Le mot figure déjà chez Homère. Quel devoir responsable avons-nous envers eux? Eh bien, je crois que la réponse est soufflée par le premier point, la définition de la liberté. Il faut, le devoir est de favoriser la perpétuation de l'espèce en tant qu'humaine, c'est-à-dire en tant que libre. Nous avons donc le devoir de permettre à ceux qui viendront après nous d'assurer l'exercice responsable de la liberté. Or, assurer l'exercice responsable de la liberté à nouveau a deux versants. Un versant objectif, évident, minimiser les contraintes pesant sur les choix autonomes droits de nos descendants. Mais vivre, c'est infliger des contraintes, car la nature est forcément affectée et surtout des situations sont induites qui ne sont pas réversibles ou du moins qui ne sont pas entièrement réversibles. Deuxièmement, les conséquences sont toujours incertaines, plus ou moins. On ne sait pas sur quoi débouchera ce que nous faisons. Et enfin, l'espèce et ses représentants sont faillibles et disgraciés, et par conséquent, des erreurs fâcheuses sont inévitables. Malheureusement, pour abolir tout risque et toute contrainte, il y a une solution, mais elle est extrême, puisqu'il faudrait que les vivants cessassent de vivre, parce que, dans ce cas, il n'y aurait plus de génération à venir, le problème serait supprimé, mais il est peu probable que nous en venions à cette extrémité. Il y a également une dimension subjective que je crois plus importante. Il faut postuler que les humains à venir, étant libres, sauront effectuer des choix autonomes droits et sauront, tant bien que mal, résoudre ou gérer les problèmes que les vivants leur infligent en vivant. Mais deuxièmement, il faut aussi ne pas les priver de leur liberté en décidant et en choisissant à leur place. Il ne faut pas faire l'erreur de ces parents qui veulent tout décider pour leurs enfants en les privant de leur liberté. Conclusion à laquelle je suis parvenu provisoirement, la réponse à la question que vous m'avez posée, Monsieur le Président, est oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais à deux conditions. Il faut d'abord minimiser à la lumière actuelle les contraintes infligées, et deuxièmement, il faut se garder de conséquences qui aboliraient l'espèce ou la dénatureraient. Merci.
Vous venez d'écouter Jean Béchler et Michel Pébrot en conclusion d'un colloque organisé en mars 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques sur l'avenir du nucléaire dans la politique énergétique française. Restez en notre compagnie et téléchargez sur Canal Académie les deux autres retransmissions. Retrouvez dans un premier temps Jacques Le Sourne, Jacques Percebois et Jean-Paul Bout. Jacques Le Sourne est économiste, Jacques Percebois est président de la commission Énergie 2050 et Jean-Paul Bout est directeur de la stratégie du groupe EDF. Et retrouvez au cours d'une autre retransmission le contrepoint des propos des trois personnes que je viens de citer, le contrepoint avec Benjamin Dessus, président de Global Chance, qui prône une sortie pure et simple du nucléaire. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.